passion moderniste.
Vive le roi !
Le podcast qui éclaire.
Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé.
L'histoire moderne.
La terre est proche.
La thèse est osée.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je vous propose de rencontrer des jeunes chercheurs et chercheuses en master ou en thèse qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire en gros pour l'Europe occidentale entre les années 1500 et 1800. Le but de ce podcast est vraiment de vous faire découvrir des choses sur l'histoire, même si vous n'y connaissez rien. Épisode 42, Bérénice et l'esclavage à l'époque moderne, c'est parti.
Il y a des gens que ça intéresse ce...
Non, personne.
Aujourd'hui, je vous préviens, nous allons parler d'un sujet qui est difficile, mais d'un sujet important. Vous avez vu le titre. Et je le dis tout de suite, ça va vraiment être un épisode d'introduction au sujet. On va pas pouvoir parler de toutes les situations dans tout le monde entier. Et si vous voulez aller plus loin, on vous mettra de toute façon, comme d'habitude, des références sur le site du podcast, des lectures et tout ça. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'esclavage instauré par la France dans les Antilles françaises au cours de l'époque moderne. Et notre guide aujourd'hui dans ce sujet, c'est Bérénice Thuré. Bonjour Bérénice.
Bonjour Fanny.
Alors Bérénice, je te reçois parce que tu as fait donc un mémoire de M1 et de M2 qui s'intitule « La mort de l'esclave en Martinique et Guadeloupe, 1802-1848 ». Tu étais sous la direction donc d'un côté de Frédéric Régent, qui est maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et de l'autre côté sous la direction de Thomas Romond, archéologue à l'INRAP en Martinique et Guadeloupe principalement. Donc tu l'as soutenu en juin 2022. Et oui, tu n'es pas tout à fait une moderniste. Alors là, oui, déjà les gens se disent « Mais voyons, c'est pas une moderniste, nanana !» Mais c'est pas grave, avec toi, on va parler de comment a été mise en place l'esclavage dans les Antilles françaises à l'époque moderne et de comment les situations ont évolué jusqu'à la Révolution française, qui est effectivement plus le sujet que tu as étudié, mais tu connais quand même très très bien tout ce qu'il y a avant. Déjà, première question un petit peu rituelle, pourquoi est-ce que tu as voulu étudier ce sujet ?
J'ai eu un excellent cours sur la colonisation européenne en L2 et j'ai enchaîné avec un autre séminaire sur l'esclavage à l'époque moderne, toujours en licence. Et j'ai aussi un intérêt personnel pour les Antilles. Voilà, c'est une région que j'aime bien. Et à côté de ça, pendant cette fameuse licence, j'ai fait de l'archéologie et je voulais garder cet aspect histoire et archéologie. Et donc, je me suis tournée vers Frédéric Régent pour me proposer des sujets qui pouvaient un peu assembler ces deux disciplines. Et il m'a proposé plusieurs sujets et parmi eux, la mort de l'esclave, ce que j'ai choisi. Et donc, on a contacté M. Romond qui a accepté d'être mon second directeur de mémoire.
En fait, c'est vrai que c'est assez rare, parce que quand on pense archéologie, on pense antiquité, un peu Moyen-Âge, mais on pense rarement époque moderne, voire là, vraiment, début de l'époque contemporaine.
Oui, et pourtant, il y a beaucoup d'études archéologiques sur la période moderne, notamment dans les Antilles, mais aussi en métropole. Et c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait mettre davantage en lumière, et j'espère le faire un petit peu avec cet épisode.
Bah, tu vas nous le raconter, parce qu'effectivement, moi, je trouve ça chouette qu'on puisse faire des recherches là-dessus et se dire qu'il y a encore des traces, parce qu'on se dit des traces à la fois aussi récentes, peut-être qu'elles auraient pu être enlevées et détruites par la modernisation de l'époque contemporaine, on en parlera. Alors déjà aussi, tease-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as voulu montrer dans tes recherches ?
Alors dans mes mémoires, j'ai commencé par m'intéresser à la manière dont la mort de l'esclave était utilisée par les abolitionnistes et les esclavagistes dans la littérature qui était donc plutôt destinée à la métropole parce que c'était pour convaincre le lectorat métropolitain. Je me suis aussi intéressée à l'implication de l'ensemble de la société coloniale autour de l'événement qu'est la mort de l'esclave. Et dans une sorte de dernier thème, je me suis plutôt concentrée sur l'enregistrement de la mort de l'esclave et la manière dont la mort est administrée dans le cas des condamnations à mort.
C'est super intéressant, on va en parler un peu plus en détail dans l'épisode. Alors déjà, comme d'habitude, on va un peu planter le décor. Sur quel espace géographique est-ce que tu as travaillé ?
Alors moi, j'ai surtout travaillé sur la Martinique et la Guadeloupe, puisque pour ma période, Saint-Domingue, qui est devenu Haïti, n'est plus une colonie française ni un espace français, donc ça, je ne pouvais pas l'intégrer à mon étude. Et alors évidemment, il y a d'autres colonies, comme l'île de la Réunion, qu'on appelait alors l'île Bourbon. Il y a aussi l'île Maurice, qu'on appelait île de France, mais ça, c'est pas dans mon espace géographique. Donc j'ai consulté des sources, mais ça n'a pas vraiment été intégré. C'était plutôt pour le contexte général, ça n'a pas vraiment été intégré à mon mémoire.
Et est-ce que tu peux rappeler juste géographiquement où sont la Martinique et la Guadeloupe ? Parce que parfois on a tendance à confondre, donc je pense qu'on peut toujours le redire.
Tout simplement dans les Antilles, c'est un petit peu au sud de Cuba, pour ceux qui connaîtraient mieux Cuba.
Donc on est vraiment au large des États-Unis, du Mexique, on est dans ce grand espace-là.
Voilà, on est là où se passe Pirates des Caraïbes, globalement, c'est ici.
Alors commençons au début du sujet. À quelle époque est-ce que les puissances européennes ont commencé à s'installer dans les Antilles et dans quel contexte ?
Je pense que tout le monde connaît les voyages de Christophe Colomb, qui découvre l'Amérique en cherchant une nouvelle route pour aller en Chine. Et c'est là les premières installations des puissances européennes dans les Antilles, donc ça va être plutôt les Espagnols. Et jusque dans les années 1620-1610 même, il n'y a que les Espagnols qui se trouvent dans cette aire géographique, parce que les Français étaient un peu trop occupés avec leurs problèmes internes, des guerres de religion,
pour aller... Un détail
C'est ça. Donc quand ils se sont... Avec l'édit de Nantes, qui est acté donc en 1598, la France va sortir des guerres de religion et elle va pouvoir se tourner un peu vers ces nouveaux espaces à explorer et investir. Et elle va vouloir notamment faire concurrence à l'Espagne qui a pu installer son monopole. Et une des manières de faire concurrence à l'Espagne, c'est de se rendre dans les Antilles et de faire ce qu'on appelle la guerre de course. Est-ce que tu veux que je définisse la guerre de course ?
Je veux bien, parce que je crois que je sais ce que c'est, mais au cas où, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est.
La guerre de course, c'est des corsaires qui sont investis donc d'une lettre de marque d'un royaume, et qui leur donne l'autorisation d'attaquer les bateaux adverses, mais pas ceux du royaume en question,
comme
évidemment.
Comme des mercenaires, en quelque sorte.
Voilà, des mercenaires des mers.
Wow.
C'est des civils, c'est pas des militaires, et c'est surtout pas des pirates. Ils ont l'autorisation royale de le faire, et le but de la France, donc dans cette guerre de course, c'est d'investir cet espace des Antilles pour attaquer les navires des Espagnols. Surtout des Espagnols, un peu des Portugais qui sont un peu plus dans le sud. Et c'est comme ça que les premières installations vont se faire. L'objectif, c'est de mettre des zones de peuplement, mais dans un but militaire. C'est vraiment de faire concurrence à l'Espagne.
Et alors, comment est-ce que la France a colonisé la Martinique et la Guadeloupe, et à partir de quand ?
La France, donc, elle va investir les îles, elle va installer des occupations. Donc, ça va être à Hispaniola, ça va être l'île de la Tortue, et ça va être...
C'est Tortuga ?
Si. C'est ça. Donc c'est Hispaniola, c'est l'île de la Tortue, c'est la Martinique et la Guadeloupe. Et alors ces deux îles, la date qu'il faut retenir pour le début de la colonisation, c'est 1635. C'est des migrants qui viennent s'installer pour faire des zones de peuplement. Et c'est pas des comptoirs.
Pourquoi est-ce qu'ils viennent sur ces îles-là ? Qu'est-ce qui les attire ?
L'espérance déjà de prendre les terres à métaux des Espagnols. Parce que quand les Espagnols ils arrivent, ils font face aux Amérindiens qui vont leur présenter un petit peu leurs possessions et notamment et qui vont leur montrer l'or qu'ils ont. Et alors ils en ont énormément. Et les Espagnols vont se dire, mon Dieu, les sous-sols sont vraiment très riches, on va pouvoir les explorer pour extraire l'or notamment, et un peu l'argent, mais d'abord c'est l'or. Le problème c'est que c'est une accumulation qui s'est faite sur des siècles et il n'y a pas tellement d'or que ça. Ils vont s'en rendre compte un peu plus tard, mais le but à ce moment-là des Français, ils espéraient récupérer ces sous-sols qui pensaient alors assez riches et, je l'ai dit, faire concurrence en même temps au commerce espagnol.
Et il y avait déjà des personnes sur place, j'imagine ?
Oui, le problème, c'est que les Amérindiens, ils ont fait face au choc des maladies qui ont été importées par les Européens. Leur système immunitaire n'a pas pu les défendre comme il fallait. Ils ont aussi subi des massacres de la part des Espagnols quand ils sont arrivés. Et il y a aussi eu un changement de l'alimentation parce que les Espagnols ont importé de nouvelles denrées et ça a complètement changé la manière de s'alimenter. Et ça n'a pas vraiment aidé les Amérindiens à faire face à cette chute démographique très importante.
Oui, donc en fait, malheureusement, les personnes sur place en Martinique et en Guadeloupe étaient assez affaiblies. Donc quand les Français sont venus s'installer, c'était plutôt simple pour eux.
Oui, c'est ça. Il y avait presque plus déjà de personnes amérindiennes. On en croise un peu dans les sources après, mais ils sont vraiment minoritaires. Ils n'ont pas pu opposer de résistance.
Alors, raconte-nous aussi, une fois qu'ils sont installés, on arrive à notre sujet du jour. Comment se met en place l'esclavage, en fait, qu'est-ce que ça va changer ? Pourquoi l'esclavage ? Plein de questions en même temps, mais comment est-ce que l'esclavage arrive dans ces îles-là ?
Alors, l'esclavage, il existe déjà durant l'Antiquité.
Oui, c'est pas, on vient pas d'inventer ça à cette époque-là.
Exactement. Il existe déjà à l'Antiquité et il existe encore au Moyen-Âge en Europe. Alors, ça va plutôt être dans le sud de l'Europe, donc Italie, Espagne, Portugal et aussi dans l'Est. Le problème, c'est qu'en 1453, il y a Constantinople qui est pris par les Ottomans et c'était dans l'Est que les Européens prenaient la plupart de leurs esclaves. Donc là, la source se ferme en quelque sorte et ils sont un peu embêtés. Et en plus, en 1492, c'est la fin de la Reconquista en Espagne et il n'y a plus de prisonniers de guerre qu'on peut réduire en esclavage. Mais c'est pas très grave, entre guillemets.
Parce que, désolé de t'interrompre, mais du coup aussi, c'était condamné par l'Église ou pas l'esclavage? Ou est-ce que c'était parce que c'était des populations qui n'étaient pas, bah, disons-le, blanches, et donc qui ressemblaient aux chrétiens et tout, qu'on pouvait dire « Oh, bah, c'est bon, on les met en esclavage, ça passe ?»
Les Européens de l'Est étaient blancs, et pourtant ils étaient quand même réduits en esclavage. Donc la question de la couleur de peau, à ce moment-là, elle se pose pas vraiment. Mais oui, c'est déjà condamné par l'Église. Mais on va le voir, l'Église, elle a une attitude assez ambiguë vis-à-vis de l'esclavage.
Mais non.
Quoi?
Quelle surprise.
L'Église est ambiguë, mais c'est fou ça. Donc je t'en prie, vas-y, continue.
Et c'est pas très grave le fait que toutes ces sources se ferment parce que les Espagnols et les Portugais, au XVe siècle, ils ont commencé à explorer les côtes de l'Afrique. Et ils sont allés de plus en plus loin. Et les Portugais notamment, ils ont réussi à s'insérer le long des côtes africaines dans les réseaux commerciaux notamment qui existaient déjà, et notamment dans ceux d'esclaves. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une traite d'esclaves qui est très bien établie en Afrique. Il y a deux mouvements globalement. T'as le mouvement qui remonte vers le nord de l'Afrique, et ce qu'on appelle la traite orientale, et tu as le mouvement qui va vers la péninsule arabique, c'est la traite transsaharienne. À tout cela va se rajouter plus tard la traite transatlantique. Mais pour l'instant, on est toujours sur les Portugais qui s'insèrent donc dans ces réseaux d'esclavage qui sont très bien établis. Et dans un premier temps, ils vont donc faire du commerce le long des côtes et envoyer des esclaves d'abord vers la péninsule ibérique. Et récupérer de l'or, c'est ça qui les intéresse, hein, notamment le long de ces côtes. Et après, les esclaves vont être envoyés vers les Amériques. Mais Fanny, il y a quelque chose dont je t'ai pas parlé depuis le début, c'est les Hollandais.
Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les Hollandais ?
Les Hollandais, ils ont déclaré leur indépendance vis-à-vis de la couronne d'Espagne en 1581.
Un jour, il faudra que je fasse un épisode pour expliquer pourquoi les Pays-Bas étaient espagnols, mais bon bref, je t'en prie, continue.
Et donc, ils déclarent leur indépendance vis-à-vis de la couronne espagnole. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, la couronne espagnole, c'est en fait deux couronnes. C'est la couronne du Portugal et la couronne d'Espagne. Il y a un peu eu une fusion. Elle va durer à peu près 60 ans, de 1580 à 1640. Mais le roi, il va plutôt protéger les possessions espagnoles. Il va moins s'intéresser aux possessions portugaises. Et les Hollandais, qui ont eu un grand avantage avec leur flotte, ils vont s'attaquer, enfin ils vont investir de nouveaux territoires où les Portugais étaient, et notamment le Brésil.
Ah.
Et au Brésil, ils vont découvrir la culture de la canne à sucre. Le problème, c'est qu'ils sont pas très nombreux, les Hollandais, donc ils vont pas réussir à défendre ces territoires, et ils vont finir par être chassés en 1654, et là, ils vont remonter, une partie d'entre eux, va remonter dans les Antilles, et va introduire les connaissances qui favorisent la mise en place de la culture de la canne à sucre. Et c'est là qu'il va y avoir un véritable afflux d'esclaves africains.
Parce que là, il y a un vrai besoin de main-d'œuvre. Bien sûr, on va pas la payer, cette main-d'œuvre, bien sûr, et forcément.
Oui, ils vont acheter les esclaves, donc en soi, ils vont dépenser des sous, mais il faudrait quand même pas rémunérer les personnes qui travaillent pour eux.
Et donc, est-ce qu'ils prennent ces esclaves d'Afrique à partir des réseaux qui sont déjà mis en place ?
Donc juste avant de répondre à cette question, je voudrais faire un tout petit pas en arrière. Les premières personnes qui ont été réduites en esclavage, finalement, c'était les Amérindiens. Donc la couronne d'Espagne, elle interdit l'esclavage en 1501, et il y a le pape Paul III qui va réaffirmer cette interdiction en 1537. Donc en soi, normalement, il n'y a pas le droit de réduire en esclavage les Amérindiens.
Oui, là, c'est bon.
Mais, dans les faits, ils sont dans une situation de grande servitude. Donc ça, on va dire, c'est les premiers esclaves qui ont servi en Amérique.
Donc les Amérindiens.
Les Amérindiens. Et après, il va y avoir les engagés. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des engagés.
Ça ne me dit pas grand-chose, non.
Les engagés, c'est des populations plutôt pauvres, des zones européennes, fluviales et des ports, qui vont être racolées. Et on va leur vendre un peu du rêve, on va leur dire « on vous paye la traversée pour aller en Amérique, sur place, vous travaillez gratuitement pendant 3 ans, et après on va vous verser une somme qui vous permet soit de revenir si vous ne voulez pas rester, ou de vous installer sur place. »
Oui, en soi tu dis ça peut être un bon deal si en Europe tu as rien qui t'attend.
Voilà, c'est ça. Alors, chez les Français, c'est 3 ans, chez les Anglais, c'est de 4 à 7 ans, sauf que tu sens peut-être le problème arriver, c'est que les engagés, comme on les appelle, ils coûtent pas très cher. Donc on va pas très bien les traiter, et ils ont des conditions de vie finalement qui n'ont rien à envier à celles des esclaves, ils sont extrêmement maltraités, au point qu'au XVIIe siècle, dans les colonies anglaises, la moitié ne survivront pas à leur engagement.
Waouh ! Déjà, la traversée doit être compliquée, alors sur place, oui, c'est encore plus compliqué.
C'est encore plus compliqué, voilà. Et on en retrouve un peu partout. Hein. C'est pas que pour les Antilles, mais on va en retrouver dans les Antilles.
Donc c'est-à-dire qu'on a déjà cette main-d'œuvre qui arrive, mais bah, il nous en faut plus.
En fait, il va y avoir un changement. C'est le rapport avec les Hollandais dont je te parlais tout à l'heure.
Ah oui.
Dans la première moitié du XVIIe siècle, on va plutôt avoir des plantations de tabac qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Sauf qu'il va y avoir un changement avec les Hollandais qui introduisent la culture de la canne à sucre. Et surtout, les engagés, ils savent de mieux en mieux ce qui les attend en Amérique. Ils n'ont plus trop envie de s'engager. Donc il va y avoir une baisse de ces
engagements.
Il va y avoir une baisse de ces engagements, comme tu le dis. Et on va les remplacer par des esclaves africains. Et alors, ces esclaves africains, c'est difficile de dire avec précision d'où ils viennent. Globalement, c'est d'Afrique centrale, mais on a un problème dans les sources, c'est que l'origine des esclaves qui est notée, c'est celle des ports d'embarcation. Et souvent, ils ont circulé dans les terres, et ce qui fait qu'on ne connaît pas vraiment leur origine, ou alors il faut que les historiens ils travaillent directement sur les sources dans les centres d'archives des pays contemporains où il y avait la traite négrière. Mais alors là, moi, ça sort de mes compétences, par exemple, parce qu'il faut maîtriser les langues. C'est tout bête, mais quand on parle pas les langues sur place, c'est beaucoup plus compliqué. Et globalement, je peux quand même te dire que c'est l'Afrique centrale qui participe activement à ce commerce. Et notamment, il y a le royaume du Laongo, et ça va être aussi les côtes de l'actuel Angola. Et on estime qu'il y a à peu près la moitié des esclaves qui viennent de là.
Ah ouais.
Est-ce que tu as une idée des estimations des personnes qui sont transportées donc d'Afrique aux Amériques?
Tu veux dire de la masse des personnes?
Ouais, des personnes qui sont réduites en esclavage. Les estimations, elles aussi, entre 15 millions et 20 millions.
Sur quelle période?
Du 15e siècle au 19e siècle.
Entre 15 et 20 millions de personnes.
Voilà, c'est les estimations.
Qui ont été enlevées, capturées.
Oui.
Et vendues.
Aussi des prisonniers de guerre. Ouais.
Et aussi des prisonniers de guerre qui ont été amenés aux Antilles.
Voilà.
C'est énorme.
Et après, il faut rajouter les esclaves qui naissent sur place. Donc, c'est une masse encore plus imposante. Et pour ceux que ça intéresse, il y a une base de données publique qui s'appelle Slave Voyages et qui recense plein d'expéditions. En fait, ils ont pris les sources et les ont recensées. Et c'est une base de données publique qu'on peut consulter. Et ça permet de se rendre compte notamment de la grande diversité des groupes culturels qui ont été mélangés de force finalement.
Parce qu'on a, oui, on a le détail quand tu dis les groupes culturels.
Donc, on va remonter à ces sources et on va remonter à ces origines des ports d'embarcation, mais après il y a aussi des sources quand même qui permettent de connaître plus dans le détail.
D'accord, bah on mettra le lien sur oui. Le site qui accompagne le podcast, et c'est super intéressant. Ok, donc on a ces millions et des millions de personnes qui sont donc transportées dans des conditions, j'ose même pas imaginer, et amenées aux Antilles pour donc la culture de la canne à sucre, c'est ça?
C'est principalement ça. C'est la principale source économique de l'île, c'est la culture de la plante à sucre, c'est ça qui fait vraiment leur valeur, et on va appeler notamment Saint-Domingue, donc la future Haïti, la perle des Antilles, parce que c'est elle qui produit le plus de canne à sucre, qui a une grande valeur à ce moment-là.
Mais alors pourquoi est-ce qu'on va produire ça sur les îles et pas sur le continent où il y aurait plus de place?
Il y en a aussi, mais la France, elle est quand même installée dans les Antilles. Alors, il y a aussi des installations au Canada, mais la canne à sucre, ça pousse pas très bien au Canada.
Oui, effectivement. Oui, donc là, il y a le côté climatique qui joue.
Oui, et la canne à sucre, elle vient d'Indonésie, et elle a migré avec les millénaires, et notamment les croisades.
Mais non.
Qui lui ont permis d'avancer progressivement comme ça vers l'Occident au XIIIe siècle. Donc, la canne à sucre, elle arrive en Europe, et pendant cette fameuse exploration des côtes africaines dont je t'ai parlé par les Portugais et les Espagnols, on va découvrir des îles. Ça va être l'île des Canaries, les Açores, Madère, Sao Tomé. Et dans ces îles, on va commencer à mettre en place la culture de la canne à sucre. Ça va être des petits laboratoires, ils le savent pas encore, mais qui va permettre une explosion de la culture après dans les Antilles.
Donc quand on dit oui, l'histoire mondiale, c'est super tard, mais on voit déjà qu'à cette époque, oui, il y a une connexion entre tout ça.
Déjà oui, mais ça remonte déjà avant, mais alors oui. Là on le voit particulièrement bien. Et donc, il y a la culture de la canne à sucre qui va se mettre en place dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Avant ça, il y avait le tabac, j'en ai parlé un petit peu avec les engagés. Et il y a aussi des cultures annexes, je dirais, comme le café ou le coton. Mais c'est pas ça qui fait le plus gros, en fait, paradoxalement. Ce sont les plantations qui sont les plus nombreuses, ce qu'on appelle des cultures secondaires, mais économiquement, c'est pas le point fort de ces îles, c'est la canne à sucre. Donc, il y a les esclaves qui servent pour les cultures, et il y a aussi les esclaves qui vont servir, par exemple, pour les commerces. On peut les retrouver chez les boulangers dans les villes. Il y a aussi des esclaves qu'on va retrouver dans la maison des maîtres. Plus on a d'esclaves dans sa maison pour tout ce qui est domestique, plus on est socialement élevé dans la hiérarchie de la colonie. Et alors, c'est beaucoup plus rare, mais on va pouvoir armer les esclaves aussi quand on fait la guerre contre d'autres puissances européennes qui essaient de prendre les colonies. Ça va arriver, par exemple, en 1666. Le gouverneur de la Martinique, il me semble, va prendre la décision d'armer quelques esclaves, et souvent, ça aboutit par l'affranchissement.
Went down to the river Jordan, where John baptized three. When I walk the devil in hell, says Johnny, baptize me. I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise to heaven, Lord, for the year, Jordan, roll. Well, some say John was a Baptist.
Some say
John was a Jew. But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I say, roll, Jordan, roll.
Oui, alors qu'est-ce qu'on sait des conditions de vie des esclaves là-bas ?
Bah, je pense que je vais pas te spoiler beaucoup en te disant qu'elles étaient globalement pas très bonnes. L'espérance de vie était quand même très basse, mais c'est faussé en partie par le fait, enfin c'est pas faussé, mais il faut prendre en compte le fait que la mortalité infantile est énorme, et donc ça baisse énormément la moyenne. Et alors, les conditions de vie, elles sont difficiles évidemment. Les esclaves coûtent quand même assez cher, les maîtres ont pas intérêt à les faire mourir très vite, mais ils ont pas vraiment de considération humaine non plus pour eux.
Et tu as travaillé notamment dans tes recherches sur les cimetières d'esclaves, enfin, ce qui est quand même une source, j'imagine, très importante. Où est-ce qu'ils étaient et qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur les histoires de ces esclaves ?
Chaque catégorie de la population dans les colonies a son cimetière. On ne se mélange pas une fois qu'on est mort, même là, on reste bien séparés. Donc les libres ont leur cimetière, les militaires ont leur cimetière, évidemment les esclaves aussi. On en connaît une dizaine de cimetières d'esclaves archéologiquement dans les Antilles françaises, mais il y a un biais. C'est que les plages, à cause de l'érosion due à la mer tout simplement et l'affluence touristique, les cimetières ont tendance à affleurer et donc on les repère beaucoup mieux, mais il faut aussi emmagasiner le plus de connaissances possible rapidement avant leur destruction. Donc on a plus fouillé ces cimetières de plage, donc on les connaît davantage, mais c'est un peu un biais archéologique, ça veut pas dire qu'il y en a pas ailleurs, au contraire. On va en trouver les cimetières privés sur les habitations, on va retrouver des cimetières paroissiaux qui sont, une fois encore, séparés quand même de ceux des libres, et il y a aussi par exemple les cimetières des hôpitaux. Ce que ça nous apprend, ça va dépendre vraiment évidemment de ce qu'on retrouve sur les ossements et sur le mobilier. Par exemple, on a des personnes qui avaient les incisives taillées.
Comment ça ?
C'est une pratique qui se faisait en Afrique, donc ça veut dire que cet individu est né en Afrique et a été transporté dans les Antilles. Et alors là, ça se repère tout de suite. C'est un exemple concret qui montre comment on peut identifier des esclaves. Mais évidemment, ils sont pas tous comme ça. Et d'ailleurs, si toi, tu devais te retrouver face à une tombe d'esclaves,
oui,
tu ne pourrais pas savoir si c'est un esclave ou un libre. Parce que progressivement, les esclaves, ils vont adopter les pratiques funéraires des catholiques. Alors ça se fait quand même sur un assez long temps, mais au 19e siècle, on le voit parfaitement, c'est les mêmes pratiques funéraires.
Parce qu'avant, c'était quoi plutôt leurs pratiques funéraires ?
Eh ben, on est un peu embêtés, parce qu'on n'a pas trop de tombes du 17e siècle. Ils sont surtout du 18e et du 19e, et déjà au 18e, on a une mise en place de ces pratiques très catholiques. Il y en a très peu et donc c'est pas du tout représentatif.
Oui,
finalement. On peut pas tirer de conclusion et même là, il faut bien garder en tête que chaque cimetière est unique et c'est difficile de globaliser à toute la situation des colonies.
Mais est-ce que ça permet peut-être de croiser certaines sources sur le nombre de personnes, le nombre d'esclaves qu'on estime qu'il y avait à ces moments-là ?
Pas vraiment, paradoxalement, parce que des fois, par exemple, ils sont pas du tout recensés dans les sources. Ça, c'est super quand on a un cimetière d'esclaves qui n'est pas recensé dans les sources, ça nous en apprend énormément, mais donc c'est beaucoup plus difficile aussi de recouper. Et par exemple, dans les cimetières d'esclaves, il y a très peu d'enfants, alors qu'il devrait y en avoir beaucoup plus au vu de la mortalité infantile dont je t'ai déjà parlé.
Donc on se dit qu'ils devaient être inhumés d'une autre façon ?
Soit ils sont inhumés d'une autre façon ou ailleurs, soit leurs restes ne sont pas du tout conservés. C'est une possibilité, les ossements des enfants sont quand même beaucoup plus fragiles.
On n'a pas retrouvé de fosses communes ?
Non, les cimetières que j'ai étudiés, notamment sur les rapports de fouilles, c'était vraiment des tombes individualisées. Il n'y avait pas cette notion de fosse commune dans ceux qui ont été étudiés.
Ok, c'est super intéressant dit comme ça. Et est-ce qu'on sait si des esclaves étaient amenés en France métropolitaine ?
Oui, alors, il y a le roi, Louis le Hutin, qui interdit la présence d'esclaves sur le sol du royaume français. Sauf que ça, c'était évidemment avant les colonies. Et donc, il va devoir y avoir un réaménagement de la loi. Alors, jusqu'en 1716... quand un esclave pose le pied sur le territoire métropolitain, il est censé être libre. C'est la loi, il ne peut pas y avoir d'esclaves sur le territoire. Sauf que les planteurs, les maîtres, ils n'aiment pas trop l'idée de perdre la propriété de l'esclave quand ils se rendent dans la métropole. Donc, ils vont réussir à obtenir un décret du roi en 1716.
Donc, le lobby des planteurs.
Ouais, c'est ça. On va réussir à obtenir un décret qui leur permet d'introduire des esclaves sans perdre la propriété. Il y a des conditions. C'est soit, normalement, pour les éduquer dans la foi catholique, soit pour leur apprendre un métier.
Oui, bien sûr.
Voilà, t'as tout de suite compris le problème. C'est qu'il y a un peu d'abus. Les maîtres ne respectent pas vraiment ça. Donc, l'autorité royale va se dire, c'est pas grave, on va réitérer cette loi dans les années 1730. Ça ne passe toujours pas, les maîtres n'en font un peu qu'à leur tête. Et finalement, c'est en 1777 qu'on va mettre en place des dépôts dans les ports où on va placer les esclaves en attendant que les maîtres reviennent les chercher quand ils reprennent les bateaux pour éviter leur circulation sur le territoire.
Ils sont vraiment traités comme des marchandises, en fait.
Oui, là, c'est pour éviter les abus des maîtres. Mais oui, effectivement, ça ne respecte pas vraiment les droits de l'homme, non. Donc, on a un peu parlé là, de la mise en place de la réglementation, mais plutôt dans la métropole. Mais évidemment, il va falloir en mettre une en place dans les colonies. Alors, on revient dans le temps. On est en 1635, il n'y a pas vraiment de règlement. Et ça va plutôt se mettre en place au fur et à mesure avec les décisions locales des autorités et les décisions de justice. Mais on va quand même avoir un changement. Il va y avoir deux ordonnances. L'ordonnance de Tracy en 1664 qui va légiférer sur les affranchissements. Et après, on a l'édit de 1685 qui est plutôt connu sous le nom de Code Noir. Mais c'est un peu impropre de dire ça parce que le Code Noir, ça regroupe cet édit de 1685 et quelques autres textes de loi qui légifèrent sur le commerce des esclaves. Toujours est-il que cet édit de 1685, il est hyper important. C'est lui qui va définir déjà le statut de l'esclave. Est-ce que c'est un bien meuble ou un bien immeuble ?
Et quelle différence entre les deux ?
Au début, en 1635 et jusqu'à 1685, les esclaves ils sont considérés comme des biens meubles. C'est-à-dire qu'ils peuvent être vendus en dehors de leur plantation. Sauf que en 1685, ça va changer. On ne va plus pouvoir séparer les esclaves de la plantation et ils deviennent des biens immeubles. Il y a une exception, c'est pour les plantations sucrières, parce qu'on se considère vraiment que la plantation, elle a de la valeur avec sa main-d'œuvre, avec les esclaves.
On déshumanise totalement ces personnes, en fait.
Oui, c'est des esclaves. L'édit, quand même, de 1685, elle leur concède quand même le baptême. Donc, ça veut dire qu'on leur reconnaît une âme.
Ah oui, bah toujours la religion.
Oui,
hein,
mais c'est important parce que ça veut dire qu'on leur reconnaît une âme.
Ah!
C'est pas parfait, mais on sait que ce ne sont pas des objets. Ce sont des êtres humains et tout le monde le sait.
Mais parce que oui, les débats sur l'âme de l'esclave, il me semble qu'en Europe, on en parle beaucoup.
On en parlait, mais finalement, quand les Français arrivent dans les colonies, la question, elle est déjà résolue. On sait que ce sont des êtres humains, la question ne se pose plus. Mais cette question du baptême, ça interroge un peu le rôle de l'Église, finalement, dans l'esclavage. J'ai déjà dit, il me semble qu'il y avait des rois, des papes, pardon, qui s'opposaient à l'esclavage. Ça remonte déjà au Moyen-Âge. On va avoir le pape Eugène IV qui dénonce l'esclavage, et ça va être réaffirmé par Pie II, toujours au XVe siècle, avant la découverte des Amériques. Et je sais pas si tu connais Bartolomeo de las Casas.
Ça me dit quelque chose,
oui.
Ce nom.
C'est un des plus grands défenseurs des Amérindiens. C'est plutôt au Mexique, dans l'actuel Mexique. Au début, il se bat que pour la fin de la servitude pour les Amérindiens. Et finalement, il va étendre tout son combat à l'ensemble, à toutes les personnes qui sont réduites en esclavage, dont les Africains. Donc il y a aussi des religieux qui s'opposent quand même à la réduction en esclavage des gens. Pourtant, cette église va complètement participer au contrôle social de l'esclave. Il y a des ordres religieux qui ont des esclaves. Les jésuites et les dominicains, par exemple, ils ont des esclaves dans les Antilles françaises. Ceux qui se battent contre l'esclavage, ils y pensent vraiment, mais c'est tout le système qui est impliqué dans le contrôle social de l'esclave.
Oui, et puis c'est la thune avant tout, en fait, là, dans cette histoire, quand même.
Oui, c'est ça qui fait quand même tourner les plantations et les ordres religieux. Ils ont aussi des terres à cultiver, donc ils ont aussi besoin de main-d'œuvre pour les valoriser et en tirer des bénéfices.
Mais est-ce qu'on voit d'autres personnes à l'époque qui critiquent l'esclavage ?
Oui, et on va particulièrement le voir, par exemple, chez les auteurs des Lumières. On va le voir chez Montesquieu dans, et alors là, je cite, c'est « De l'esclavage des nègres ». Le mot « nègre », on va le retrouver très souvent dans les sources. Aujourd'hui, évidemment, on ne l'emploie plus, sauf entre guillemets. Donc, il en fait une critique de cet esclavage, mais les personnes les plus investies dans cette critique, ça va plutôt être Diderot et l'abbé Rénal, par exemple. On le voit dans « L'histoire philosophique des deux Indes ». À côté de ça, évidemment, il y a Voltaire. Mais Voltaire, par exemple, il a jamais appelé à une abolition de l'esclavage. Même s'il a critiqué la situation, il y a un entre-deux prudent.
Et est-ce que dans les Antilles même, est-ce qu'on voit une résistance à l'esclavage ou alors vraiment c'est un système qui est mis en place et personne ne le critique ?
Dans les Antilles même, les maîtres, ils n'ont pas vraiment intérêt à ce que l'esclavage cesse. Les voyageurs vont être beaucoup choqués. Par exemple, ça se voit particulièrement au 19e siècle dans les sources de cet état de fait. Et il va y avoir beaucoup au 19e siècle, et c'est particulièrement là que ça se met en place, une littérature abolitionniste de personnes qui se sont rendues dans les Antilles, mais aussi en Amérique, hein, qui ont été choquées et qui essaient de changer cette situation. Le plus connu, c'est Schœlcher, qui va participer à l'abolition définitive, mais là, on avance peut-être un peu beaucoup.
Et une question aussi peut-être que les gens se posent, c'est que comment est-ce que le système esclavagiste a pu perdurer aussi longtemps alors que les esclaves avaient l'avantage du nombre? Ils étaient beaucoup plus nombreux. On se dit, mais s'ils se mettent tous ensemble, il y avait beaucoup plus d'esclaves que de maîtres. Donc s'ils se motivent tous, hop, ils pouvaient renverser le système.
C'est vraiment une très bonne application du diviser pour mieux régner. C'est vraiment ça qu'on voit se mettre en place dans les colonies. Il y a un contrôle social qui se fait par l'ensemble de la société, mais vraiment la cellule la plus fermée, c'est vraiment celle de l'habitation et de la plantation. Il va y avoir ce qu'on appelle une cascade de mépris. Il y a une hiérarchie dans la population servile. En haut de cette hiérarchie, on va retrouver les esclaves qui sont métissés, qui ont des parents blancs et d'origine africaine.
Parce qu'on voit ça aussi dans les Antilles.
Bien sûr, il y a des unions, notamment entre les maîtres, c'est souvent dans ce sens-là, enfin c'est même que dans ce sens-là, des hommes maîtres qui font des enfants avec des esclaves noirs.
Oui, donc là on peut quand même, on va pas rentrer dans les détails, mais on imagine que c'est pas des unions forcément très choisies et peut-être imposées.
Peut-être, oui. Le problème c'est qu'on a aucune source qui a été écrite dans les Antilles françaises par des esclaves. Donc on ne saura jamais, mais c'est évident que dans le lot, effectivement, il y a des unions qui ont été forcées.
Donc on a donc ces métissés ?
On a ces métissés. On a ensuite, donc eux, ce sont des gens qui sont nés dans les colonies, ce qu'on appelle des créoles. Ensuite, il y a les créoles qui sont nés toujours dans les colonies, mais qui ont deux parents d'origine africaine, donc leur couleur de peau est noire. Et il y a quand même cette hiérarchie en fonction de la couleur de peau qui tend de plus en plus vers le blanc. Et enfin, on va avoir les esclaves qui viennent d'Afrique directement, qui sont vraiment en bas de la hiérarchie sociale.
Donc les derniers arrivés à chaque fois, j'imagine.
C'est ça. Et il va y avoir, c'est vraiment ce dont je te parlais, cette cascade de mépris. Chacun méprise l'autre, et ce qui fait qu'il y a une partition, ils ne peuvent pas s'unir.
Oui, c'est un mépris qui est en fait instauré par les esclavagistes.
Oui, et qui est alimenté. Et ça se voit particulièrement lors des révoltes. Elles sont souvent dénoncées. Parce qu'on peut espérer être affranchi quand on dénonce une révolte. C'est vachement pratique pour les maîtres, ça l'est beaucoup moins évidemment pour les esclaves, et ça participe au fait qu'il y ait assez peu de révoltes finalement. Elles sont souvent réprimées avant.
Et les affranchis, comment on fait pour être affranchi quand on est esclave ?
Tous les maîtres, alors ça c'est avec l'édit de 1685, il affirme que tous les maîtres peuvent affranchir leurs esclaves. Souvent, on peut voir ça avec les femmes, elles sont quand même beaucoup plus affranchies que les hommes, et ça vient de ce dont on parlait tout à l'heure, les relations qu'elles peuvent tisser avec leur maître. Il y a un attachement humain quand même qui se forme malgré tout, et certains vont abolir leur descendance et les mères de leurs enfants. Il y a l'affranchissement dont je te parlais tout à l'heure, quand on prend les armes pour défendre sa colonie aussi. Et il y a aussi les affranchissements, mais c'est beaucoup plus ponctuel, de maîtres qui soit décident de les affranchir à leur mort, soit de leur vivant, parce qu'ils apprécient individuellement certains esclaves.
Un extrait de musique, mais de pas n'importe qui. En fait, ça a été écrit par un descendant d'esclaves. En fait, on vient d'entendre un extrait donc d'une musique composée par le chevalier Saint-Georges. En fait, c'est quelqu'un qui est le fils d'un propriétaire de plantation en Guadeloupe et qui était aussi le fils d'une esclave d'origine a priori sénégalaise. Et en fait, ce qu'on a appelé le chevalier Saint-Georges et qu'on a surnommé le Mozart noir s'installe en France à partir de 14 ans et il a vraiment un destin qui est assez particulier. Il y a un biopic, il me semble, sur Netflix si vous voulez en savoir plus, et plein d'émissions, je vous mettrai des liens sur le site, parce que il a vraiment eu un destin à la fois de musicien mais aussi d'escrimeur. Il a bien sûr été engagé dans la lutte contre l'esclavage et donc pour l'abolition, parce qu'en fait on le voit, et donc on arrive un petit peu à ce moment assez clé qui est la révolution. Là, les débats sur l'esclavage vont être beaucoup plus virulents sur l'abolition de l'esclavage.
Oui, on va juste remonter un tout petit peu.
Ah,
en
oui.
1788, il y a juste avant, il y a la fondation de la Société des Amis des Noirs qui réclame l'abolition immédiat de la traite négrière transatlantique et l'abolition progressive. Ça, c'est un des grands débats qu'il y a parmi les abolitionnistes, l'abolition progressive de l'esclavage. Il y a deux camps, globalement, ceux qui veulent abolir directement l'esclavage et ceux qui veulent que ça se fasse sur la longue durée, tranche par tranche de la population, pour que ce soit pas un choc directement pour la société.
Oui, là, on revoit encore le côté où on veut séparer les esclaves en fonction des critères qu'on dit tout à l'heure.
Oui, et donc on arrive à la Révolution française en 1789. Et en 1789, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui affirme clairement que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc a priori, on devrait se dire plus d'esclavage. Sauf que c'est pas du tout le cas. Il y a le fameux lobby dont tu parlais tout à l'heure qui va réussir à placer les colonies hors de la portée de ce texte. Et il faut attendre 1794 pour que l'esclavage soit aboli par la Convention nationale.
Et comment ça se passe dans les Antilles alors ? Quelles sont les conséquences ?
Alors, il y a une situation un peu particulière en Martinique, c'est que l'île elle a été reprise entre-temps par les Britanniques.
Ah !
Donc elle n'est plus sous domination française et les esclaves martiniquais ne vont pas connaître cette courte période de libération et ça va surtout s'appliquer donc pour la Guyane et la Guadeloupe dans les Antilles. Globalement, ils sont libres officiellement, ils vont être enregistrés sur les états civils des libres, mais pour beaucoup, la situation ne change pas. Ils sont toujours exploités par leurs anciens propriétaires qui sont devenus leurs employés.
Hyper hypocrite, en fait. Ils sont payés, ils ont de l'indépendance, est-ce qu'ils ont le choix de partir ou non ?
De fait, ils n'ont pas vraiment de moyens de partir. Beaucoup se retrouvent dans une situation de précarité financière qui les prend un peu à la gorge. Ils sont obligés de rester dans ces colonies et d'y travailler pour survivre. Il aurait fallu beaucoup plus de temps, je pense, pour que ça se mette vraiment en place et que l'égalité soit vraiment effective, mais...
Oui, en fait, là, faut qu'on le dise.
Voilà.
C'est que, bon, on déborde un peu sur l'époque moderne, mais on va parler rapidement de ce qui s'est passé ensuite, parce que, en fait, quelques années après, il y a eu un retour en arrière, malgré les avances de la Révolution.
Exactement. En 1802... Napoléon va rétablir l'esclavage.
Mais voyons, Napoléon !
Il va rétablir l'esclavage. La Martinique n'a jamais connu cette abolition, donc pour les esclaves, ça ne change pas grand-chose, mais par contre, ça va être un retour en arrière très grand pour les esclaves qui étaient guadeloupéens. Et d'ailleurs, il y a un peu un paradoxe, c'est que pour les esclaves, et pour ce qu'on appelle les libres de couleur, donc c'est des personnes qui ne sont pas blanches, elles peuvent être blanches de peau, mais elles ont des ancêtres africains. Donc on ne les considère pas comme blancs. Ces personnes vont retomber sous les lois de l'Ancien Régime, alors que les Blancs vont garder les avancées de la Révolution française. Donc on revient à l'édit de 1685 dont je t'ai parlé, qui est très important pour toute la période et qui va s'étendre donc jusqu'en 1848. Mais entre-temps, la cause, elle avance. Il y a la littérature abolitionniste dont je t'ai parlé tout à l'heure. Cette littérature abolitionniste, elle est particulièrement efficace en Angleterre. Elle est un peu moins en France, mais elle existe, elle est là. Et il y a quand même cette idée que la liberté, c'est possible. La Révolution française, elle a introduit cette idée que l'abolition peut se passer, alors qu'avant, on ne pouvait pas imaginer une libération de l'ensemble de la société. Les esclaves ne pouvaient pas imaginer qu'ils pouvaient être tous libres. Alors, en 1804, Saint-Domingue se révolte, et ça va devenir Haïti. C'est la seule révolte d'esclaves qui a abouti à la création d'un État, et qui a réussi. Sinon, je te l'ai dit, les révoltes étaient plutôt réprimées. On a la traite qui va être abolie en 1815, mais c'est vraiment effectif que dans les années 30, et ça, ça change tout en fait. C'est l'abolition de la traite qui permet sur le long terme l'abolition de l'esclavage parce que la main-d'œuvre ne peut pas se renouveler.
C'est-à-dire que là, on révoque le fait de pouvoir amener des esclaves, acheter des esclaves depuis l'Afrique.
Exactement. Et comme la main-d'œuvre ne peut pas se renouveler parce qu'il y a plus de morts qu'il n'y a de naissances, le système ne peut pas continuer et perdurer. On va arriver donc en 1848, avec la révolution de février, et le gouvernement, avec Schœlcher dont je te parlais, va être convaincu qu'il faut abolir l'esclavage. Ils vont le faire, ils vont l'acter. Et alors là, c'est pas marrant, mais il y a quand même une belle temporalité qui se croise, c'est qu'au même moment, dans les colonies, il y a des révoltes qui vont se mettre en place. Ça partait à l'origine d'un joueur de tambour qui a été réprimé, ça a un peu fait tache d'huile, et il y a des révoltes qui se sont répandues dans les deux colonies, et c'est un tel chaos que les autorités vont décider d'abolir l'esclavage sur place pour pas que la situation s'embrase totalement. Donc quand les émissaires de la Nouvelle République arrivent, il n'y a déjà plus d'esclavage en fait dans ces deux colonies-là.
Ah ouais, non mais c'est super intéressant. Bon, on a dû être assez rapide sur beaucoup de choses et auditeurs, auditrices, vraiment, il y a beaucoup de choses qui existent sur tous ces sujets. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ces sujets, donc on vous mettra des références en bibliographie. Et si jamais des personnes qui écoutent et qui travaillent dessus, n'hésitez pas à me contacter, je suis sûre qu'on pourra encore faire d'autres épisodes pour parler. Si vous étudiez des sources en particulier, n'hésitez pas, parce que tu l'as dit beaucoup, Bérénice, le problème, en fait, notamment pour parler de l'esclavage et des esclaves, c'est le problème des sources. Parce que toi, sur quelles sources est-ce que tu as étudié pour tes recherches ?
Alors, en première année, moi, je suis tombée pendant l'année du Covid.
Ah.
Donc, c'était pas évident au niveau des centres d'archives. Mais j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'il y a beaucoup d'archives qui sont numérisées maintenant. Et là, je remercie tout spécialement la BNF. C'est une mine d'or. Et c'est surtout sur ça que je me suis basée. Et il y a aussi
sur Gallica ?
Oui, exactement. Et en plus, il y a cette merveilleuse invention qu'est la recherche en plein texte. On cherche un mot dans le texte, il nous trouve toutes les occurrences et ça évite de lire des livres où on ne sait même pas si on va trouver ce qu'on cherche finalement. Donc ça, c'était vraiment top. Et il y a aussi les états civils maintenant qui sont numérisés, dont ceux des esclaves. Et pendant cette première année, j'ai épluché l'état civil des esclaves d'une seule commune, parce que sinon ça fait quand même beaucoup. Et en deuxième année, je me suis rendue grâce à une bourse de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, que je remercie encore, à Aix-en-Provence, parce que c'est là qu'il y a les ANOM, c'est les Archives Nationales d'Outre-mer. Et j'ai pu me rendre en Martinique pour consulter les archives départementales. C'était merveilleux de pouvoir voir finalement son terrain d'études et de pouvoir consulter ses archives. Et là, c'était plutôt des archives judiciaires et administratives.
Judiciaire, c'était sur quel type de sujet, par exemple ?
C'était les cours d'appel, parce que c'est elles, au XIXe siècle, qui légifèrent sur les condamnations à mort des esclaves. Et moi, je me suis particulièrement penchée sur ça.
Oui, on n'en aura pas trop parlé, mais c'est un sujet passionnant, effectivement. Et alors, quelles difficultés est-ce que tu as rencontrées, à part le côté les sources pas accessibles au début ?
Finalement, c'était la difficulté principale et l'isolement, si je puis dire, parce que la recherche est déjà un travail assez solitaire, finalement. Et alors là, avec le Covid, on se voyait quasiment plus. Et c'est bien l'émulation qu'on peut parler un peu de son sujet de recherche avec les autres. Et là, on était un peu coupés, les cours étaient à distance. Et je pense que c'est ça qui a été la plus grande difficulté de mon côté.
Et est-ce que tu as eu quand même des bonnes surprises pendant tes recherches ?
Mon sujet n'était pas forcément joyeux. C'est quand même la mort de l'esclave. Donc, j'ai pas eu de bonnes surprises, de pépites d'humanité, on va dire. Voilà, de ce côté-là, non. Mais ça a été plutôt la possibilité de me rendre dans les centres d'archives et de voir certaines sources dont je ne soupçonnais pas l'existence, qui ont été quand même assez utiles.
Mais raconte-nous aussi peut-être comment c'est de travailler en Martinique, dans les archives.
Alors, au début, je devais me rendre en Guadeloupe. Mais avec le Covid, elles n'ont pas rouvert à temps. Donc j'ai dû changer mon billet d'avion.
Ah oui.
Bon, je me suis un peu adaptée, mais dans tous les cas, j'ai beaucoup de chance, j'en ai conscience. Mais là non plus, les archives n'avaient pas rouvert totalement. Donc j'ai pas pu me rendre tous les jours aux archives. Alors c'était bien pour visiter, mais je n'étais peut-être pas dans le moment le plus représentatif du fonctionnement des archives. Donc en fait, on se rend tous les matins, enfin quand vous voulez, on se rend aux archives et là, on va demander les différents cartons. Ou alors, moi j'ai beaucoup travaillé sur des microfilms, c'est des numérisations.
Ça fait mal aux yeux,
oh
les microfilms.
Là là, c'est terrible. Et en plus, ceux sur lesquels j'ai travaillé, les couleurs étaient inversées. Donc la page blanche devenait noire, l'écriture devenait blanche.
Je connais ça, j'ai travaillé sur des microfilms comme ça, c'est horrible.
C'était terrible. Et finalement, j'y avais pas grand monde. Oui, j'étais un peu la seule souvent. J'étais tranquille, ça j'avais de la chance pour ça.
Alors, on l'a dit, je mettrai, donc je l'ai dit plein de fois, je mettrai sur le site des références bibliographiques. Mais déjà, est-ce que tu peux nous citer peut-être un ou deux ouvrages qui seraient accessibles pour le grand public sur le sujet de l'esclavage ?
Oui, si je peux me permettre, je peux même en citer trois. Un pour les enfants.
Ah, bah vas-y, vas-y.
Il y en a un pour les enfants que Frédéric Réjean, mon directeur de mémoire, a publié l'année dernière. Et ça s'appelle « Tout simplement et très sobrement, raconter l'esclavage aux enfants ». Donc je pense que c'est idéal si on veut aborder la question avec eux. Il a aussi publié un livre qui s'appelle « La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, 1620-1848 ». Alors ça, c'est utile, ça couvre toute la période. Et il y a aussi un catalogue d'expositions. Il y a eu trois expositions qui ont été réalisées en partenariat entre Rouen, Honfleur et Le Havre, qui couvraient chacune des thématiques différentes, et leur catalogue d'expositions est commun. Et je pense que ça peut être une bonne idée, parce que les textes sont quand même plus aérés, il y a aussi les images des objets qui ont été exposés, c'est peut-être un tout petit peu plus accessible qu'un texte assez dense d'historien. Et ça s'appelle « Esclavage, mémoire normande ».
Ah, c'est super intéressant, parce qu'on ne pense pas forcément à la Normandie pour l'esclavage, on pense plus peut-être aux ports comme Bordeaux ou Nantes, mais oui, il ne faut pas oublier la Normandie. Et Bérénice, depuis que tu as soutenu ton mémoire, qu'est-ce que tu fais ?
Je me suis lancée dans la préparation d'un des concours de la fonction publique, et c'est celui des conservateurs du patrimoine.
Et tu voulais pas faire une thèse sur l'esclavage ou continuer tes recherches sur l'esclavage ?
Continuer peut-être que ça arrivera à un autre moment de ma carrière, je l'espère, mais pour l'instant j'avais vraiment envie de rentrer dans la vie active, et j'avoue que me lancer dans une thèse, c'était pas ce dont j'avais envie à ce moment-là. Je voulais vraiment commencer à travailler.
Et alors pour finir, une question aussi que j'ai un petit peu rituelle, est-ce que tu aurais un conseil de sujet lié à l'esclavage pour de futurs chercheurs ou chercheuses qui nous écoutent et qui des sujets qui mériteraient d'être étudiés.
Les sujets auxquels j'ai pensé, ce seraient plutôt des sujets qui englobent l'histoire coloniale, mais pas forcément celle de l'esclavage. Par exemple, il y a encore l'histoire de la Révolution française dans les Antilles, qui est hyper intéressante et qui peut encore continuer à être étudiée. Il y a aussi l'histoire après l'abolition. Et il y avait eu un sujet qui avait été proposé à un de mes camarades qui n'avait finalement pas abouti, c'était sur le foncier. C'est comment après l'abolition, la propriété foncière s'était répartie dans la population et comment elle se transmet de génération en génération.
Mais sur les sources liées à l'esclavage à l'époque moderne, tu penses qu'il n'y a plus rien à étudier ou alors seulement archéologique ?
Si, mais en fait, j'ai pas d'idée de sujet, là, comme ça.
Mais il y a encore, si ça intéresse des gens, tu penses qu'il y a encore des fonds d'archives à étudier qui méritent des études ?
Oui, mais j'ai eu des bonnes surprises dans les archives départementales, donc je suis certaine qu'il y en a d'autres que je n'ai pas vues parce que c'était pas mon sujet, mais aussi en Guadeloupe, par exemple, dans les autres départements d'outre-mer.
L'esclavage est encore un sujet d'étude actuel aujourd'hui.
Oui, et d'ailleurs, c'est un sujet tout à fait contemporain parce que l'Organisation mondiale du travail estime qu'il y aurait 50 millions de personnes aujourd'hui en situation d'esclavage moderne. Donc c'est très contemporain, c'est un sujet qui nous concerne encore finalement.
Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur comment l'esclavage a été mis en place à l'époque moderne. Donc merci beaucoup Bérénice Juré, c'était passionnant et bonne continuation pour ta carrière et merci beaucoup pour cet épisode qui est très important.
Merci Fanny.
Et j'enregistre cette conclusion des mois après avoir enregistré l'épisode. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. D'ailleurs, si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça commence à faire beaucoup d'épisodes de Passion Moderniste, hein, vraiment, donc le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux pour les podcasts, je compte sur vous. Et vraiment, on a abordé plein de sujets passionnants. Je me dis peut-être que même ça pourrait servir pour des gens à l'école, si jamais des gens travaillent sur l'esclavage. Je pense que ça peut être un bon épisode pour réviser, pour même avoir des ouvertures sur le sujet, même si vous êtes prof, par exemple, peut-être ça peut vous servir, on sait jamais. Je sais que, oui, si jamais vous êtes prof aussi, n'hésitez pas à voir sur mon site. Alors allez sur la page d'accueil de mon site, il y a une page ressources pour les enseignants et enseignantes sur des épisodes qui sont en lien avec des thématiques traitées dans les programmes du collège et du lycée, alors que ce soit pour passion antiquité, passion médiéviste ou passion moderniste. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir là-dessus. Si vous cherchez ressources, je la mettrai en description de l'épisode aussi au cas où, comme ça vous la retrouverez. Et je lance un appel, si jamais vous êtes intéressé pour passer dans Passion Moderniste, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail donc à passionmediaviste@gmail.com ou alors en passant sur mon site, hein, vraiment par exemple autour de vous. Si vous êtes en M2, que vous venez de finir de soutenir votre M2 ou que vous êtes en thèse et que vous travaillez sur l'époque moderne, voilà, n'hésitez pas à me contacter pour me proposer votre sujet. Merci encore à toutes et tous d'écouter Passion Moderniste et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!
Arrivé en pleine nuit, un petit peu après minuit, j'étais déjà endormi, en deux minutes je suis réveillé, je me retrouve les chaînes au cul, pas le temps de respirer, ils ont fait un signe de croix, on était tous baptisés. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre, on m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. Tous les parents et les enfants de l'autre côté, on était bien alignés comme dans un supermarché avec eux pour voyager.